Deuxième partie. La dynamique du rapport capital-revenu. Chapitre 3. Les métamorphoses du capital. Dans la première partie, nous avons introduit les concepts fondamentaux de revenu et de capital, et nous avons présenté les grandes étapes de la croissance de la production et du revenu depuis la révolution industrielle. Nous allons maintenant nous concentrer, dans cette deuxième partie, sur l'évolution du stock de capital, à la fois du point de vue de son niveau global, tel que mesuré par le rapport capital-revenu, et de sa composition en différents types d'actifs, dont la nature a profondément changé depuis le XVIIIe siècle. Nous allons étudier les différentes formes de fortune, terres, immobiliers, machines, entreprises, actions, obligations, brevets, cheptels, or, ressources naturelles, etc., et examiner leur développement dans l'histoire, en commençant par le cas du Royaume-Uni et de la France, le mieux connu sur longue période. Faisons tout d'abord un petit détour par la littérature, qui, dans ces deux pays, fournit une très bonne entrée en matière sur la question des patrimoines. La nature de la fortune, de la littérature à la réalité. Quand Balzac ou Jane Austen écrivent leurs romans au début du XIXe siècle, la nature des patrimoines en jeu est a priori relativement claire pour tout le monde. Le patrimoine semble être là pour produire des rentes, c'est-à-dire des revenus sûrs et réguliers pour son détenteur, et pour cela il prend notamment la forme de propriétés terriennes et de titres de dette publique. Le père Goriot possède des rentes sur l'État, et le petit domaine des Rastignac est constitué de terres agricoles. Il en va de même de l'immense domaine de Norland, dont hérite John Dashwood dans Le cœur et la raison, Sense and Sensibility, et dont il ne va pas tarder à expulser ses demi-sœurs, Elinor et Marianne, qui devront alors se contenter des intérêts produits par le petit capital laissé par leur père sous forme de rente sur l'État. Dans le roman classique du XIXe siècle, le patrimoine est partout, et quelle que soit sa taille et son détenteur, il prend le plus souvent ces deux formes, terre ou dette publique. Vu du XXIe siècle, ces formes de patrimoine peuvent sembler archaïques, et il est tentant de les renvoyer à un passé lointain et supposé révolu, sans rapport avec les réalités économiques et sociales de notre temps, où le capital serait par nature plus dynamique. De fait, les personnages des romans du XIXe siècle apparaissent souvent comme les archétypes du rentier, figure honnie de notre modernité démocratique et méritocratique. Quoi de plus naturel pourtant que de demander à un capital de produire un revenu sûr et régulier? C'est d'ailleurs le but même d'un marché du capital parfait, au sens des économistes. On aurait bien tort, en vérité, de s'imaginer que l'étude des patrimoines du XIXe siècle est sans enseignement pour le monde d'aujourd'hui. Si l'on regarde les choses de plus près, les différences avec le monde du XXIe siècle sont d'ailleurs moins évidentes qu'il n'y paraît. Tout d'abord, ces deux formes de patrimoine, terres et dettes publiques, posent des questions très différentes et ne devraient sans doute pas être additionnées aussi simplement que le font les romanciers du XIXe siècle pour la commodité de leurs récits. La dette publique ne constitue finalement qu'une créance d'une partie du pays, ce qui touche les intérêts, sur une autre, ce qui paie les impôts. Il faut donc l'exclure du patrimoine national et l'inclure uniquement dans le patrimoine privé. Surtout, cette question complexe de l'endettement des États et de la nature du patrimoine correspondant concerne au moins autant le monde d'aujourd'hui que celui de 1800, et l'étude du passé peut nous éclairer sur cette réalité très prégnante du monde d'aujourd'hui. Car même si la dette publique est encore loin d'avoir retrouvé en ce début de XXIe siècle son niveau astronomique du début du XIXe siècle, tout du moins au Royaume-Uni, elle se situe en France et dans de nombreux pays tout près de ses records historiques, et elle suscite sans doute encore plus de confusion dans le monde actuel qu'à l'époque napoléonienne. Le processus d'intermédiation financière, on place de l'argent à sa banque, puis cette dernière le place ailleurs, est en effet devenu tellement complexe que l'on en oublie souvent qui possède quoi. Nous sommes endettés, certes, comment l'oublier? Les médias nous le rappellent chaque jour, mais vis-à-vis de qui exactement? Au XIXe siècle, les rentiers de la dette publique étaient clairement identifiés. Qui sont-ils aujourd'hui? Il nous faudra éclaircir ce mystère et l'étude du passé peut nous y aider. Autre complication plus importante encore. Bien d'autres formes de capital, souvent fort dynamiques, jouent un rôle essentiel dans le roman classique et dans le monde de 1800. Après avoir débuté comme ouvrier vermicellier, le père Goriot a fait fortune comme fabricant de pâtes et marchand de grains. Pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, il a su mieux que personne dénicher les meilleures farines, perfectionner les techniques de production de pâtes, organiser les réseaux de distribution et les entrepôts, de façon que les bons produits soient livrés au bon endroit, au bon moment. Ce n'est qu'après avoir fait fortune comme entrepreneur qu'il a vendu ses parts dans ses affaires, à la manière d'un fondateur de start-up du XXIe siècle, exerçant ses stock options et empochant sa plus-value, et qu'il a tout réinvesti dans des placements plus sûrs, en l'occurrence des titres publics de rente perpétuelle. C'est ce capital qui lui permettra de marier ses filles dans la meilleure société parisienne de l'époque. Sur son lit de mort en 1821, abandonné par Delphine et Anastasie, le père Goriot rêve encore de juteux investissements dans le commerce de pâtes à Odessa. César Birotteau, quant à lui, a fait fortune dans la parfumerie. Il est l'inventeur génial de produits de beauté. La double pâte des sultanes, l'eau carminative, etc., qui, selon Balzac, font fureur en France à la fin de l'Empire et sous la Restauration. Mais cela ne lui suffit pas. Au moment de se retirer, il veut tripler sa mise avec une audacieuse opération de spéculation immobilière dans le quartier de la Madeleine, en plein développement dans le Paris des années 1820-1830. Il refuse les sages conseils de sa femme, qui voulait placer les fonds de la parfumerie dans de bonnes terres près de Chinon et quelques rentes publiques. César finira ruiné. Les héros de Jane Austen, grands propriétaires terriens par excellence, plus ruraux que ceux de Balzac, ne sont cependant plus sages qu'en apparence. Dans Mansfield Park, l'oncle de Fanny, Sir Thomas, doit partir plus d'un an aux Antilles avec son fils aîné pour mettre de l'ordre dans ses affaires et ses investissements. Il revient à Mansfield, mais doit très vite retourner pour de longs mois dans les îles. Il n'est pas simple, dans les années 1800-1810, d'administrer des plantations à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Nous sommes là encore bien loin de la paisible rente foncière au public. Alors, capital paisible ou investissement risqué? Doit-on en conclure que rien n'a vraiment changé depuis cette époque? Quelles sont au fond les véritables transformations dans la structure du capital depuis le XVIIIe siècle? Par-delà les changements évidents dans ses formes concrètes, des pâtes du père Goriot aux tablettes de Steve Jobs, des placements antillais de 1800 aux investissements chinois ou sud-africains du XXIe siècle, les structures profondes du capital ne seraient-elles pas restées les mêmes? Le capital n'est jamais paisible. Il est toujours risqué et entrepreneurial, tout du moins à ses débuts. Et en même temps, il tend toujours à se transformer en rente dès lors qu'il s'accumule sans limite. C'est sa vocation, son destin logique. D'où vient alors cette impression diffuse que les inégalités sociales dans nos sociétés modernes sont tout de même bien différentes de celles qui caractérisent l'époque de Balzac et de Jane Austen? Ne s'agit-il vraiment que d'un pur discours, sans aucune prise avec le réel, ou bien peut-on identifier des facteurs objectifs expliquant en quoi la croissance moderne aurait rendu le capital structurellement moins rentier et plus dynamique? Les métamorphoses du capital au Royaume-Uni et en France. Pour progresser dans ce questionnement, commençons par étudier les transformations de la structure du capital au Royaume-Uni, graphique 3.1, et en France, graphique 3.2, depuis le XVIIIe siècle. Il s'agit des deux pays pour lesquels les sources historiques disponibles sont les plus riches et pour lesquels nous avons pu reconstituer les estimations les plus complètes et les plus homogènes sur longue période. Les principaux résultats obtenus, représentés sur les graphiques, tentent de résumer de façon synthétique plusieurs aspects essentiels de trois siècles d'histoire du capitalisme. Deux conclusions apparaissent clairement. On constate tout d'abord que le rapport capital-revenu a suivi des évolutions extrêmement proches dans les deux pays, avec une relative stabilité au XVIIIe et au XIXe siècle. Puis, un choc énorme au XXe siècle, pour finalement se retrouver en ce début de XXIe siècle à des niveaux voisins de ceux observés à la veille des guerres du XXe siècle. Au Royaume-Uni comme en France, la valeur totale du capital national se situe autour de 6-7 années de revenu national tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, et jusqu'en 1914. Puis le rapport capital-revenu s'effondre brutalement à la suite de la Première Guerre mondiale, des crises de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, à tel point que le capital national ne valait plus que 2-3 années de revenu national dans les années 1950. Le rapport capital-revenu est ensuite reparti à la hausse et n'a cessé d'augmenter. Dans les deux pays, la valeur totale du capital national se situe au début des années 2010 autour de 5-6 années de revenu national, voire un peu au-delà de 6 en France, contre moins de 4 dans les années 1980 et à peine plus de 2 dans les années 1950. La précision de la mesure ne doit pas faire illusion, mais l'évolution générale est parfaitement claire. Le siècle écoulé se caractérise donc par une spectaculaire courbe en U. Le rapport capital-revenu a été divisé par près de 3 au cours de la période 1914-1945, avant d'être multiplié par plus de 2 sur la période 1945-2012. Il s'agit là de variations de très grande ampleur à la mesure des violents conflits militaires, politiques et économiques qui ont marqué le XXe siècle, notamment autour de la question du capital, de la propriété privée et de la répartition mondiale de la fortune. Par comparaison, les XVIIIe et XIXe siècles apparaissent bien paisibles. Au final, le rapport capital-revenu a pratiquement retrouvé au début des années 2010 son niveau de l'avant-première guerre mondiale. On l'a même dépassé si l'on divise le stock de capital par le revenu disponible des ménages, et non par le revenu national, choix méthodologique qui n'a rien d'évident, comme nous le verrons plus loin. Dans tous les cas, quelles que soient les imperfections et les incertitudes des mesures disponibles, il ne fait aucun doute que l'on a retrouvé dans les années 1990-2000, à l'issue d'un processus qui a débuté dès les années 1950, une prospérité patrimoniale inconnue depuis la Belle Époque. Le capital avait en grande partie disparu au milieu du XXe siècle. Il semble sur le point de retrouver en ce début de XXIe siècle les niveaux observés au XVIIIe et XIXe siècle. Les patrimoines ont repris les couleurs qui ont toujours été les leurs. Dans une large mesure, ce sont les guerres qui, au XXe siècle, ont fait table rase du passé et ont donné l'illusion d'un dépassement structurel du capitalisme. Si importante soit-elle, cette évolution du niveau global du rapport capital-revenu ne doit toutefois pas faire oublier les profondes transformations de la composition du capital depuis 1700. Il s'agit là de la deuxième conclusion. De par les actifs concernés, le capital au XXIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec celui du XVIIIe siècle. Les évolutions observées sont là encore très proches au Royaume-Uni et en France. Pour simplifier, on peut dire que sur très longue période, les terres agricoles ont été progressivement remplacées par l'immobilier et par le capital professionnel et financier investi dans les entreprises et les administrations, sans pour autant que la valeur globale du capital, mesurée en années de revenu national, ait véritablement changé. Plus précisément, rappelons que le capital national est défini comme la somme du capital privé et du capital public. Les dettes publiques prises en compte comme actifs pour le secteur privé et comme passifs pour le secteur public se retrouvent donc annulées, tout du moins si chaque pays possède sa propre dette publique. Nous les réintroduirons un peu plus loin dans l'analyse. Comme nous l'avons noté dans le chapitre 1, le capital national ainsi défini peut se décomposer en capital intérieur et capital étranger net. Le capital intérieur mesure la valeur du stock de capital, immobilier, entreprise, etc., implanté sur le territoire du pays considéré. Le capital étranger net, ou actif étranger net, mesure la position patrimoniale du pays considéré vis-à-vis du reste du monde, c'est-à-dire la différence entre les actifs possédés par les résidents du pays dans le reste du monde et les actifs possédés par le reste du monde dans le pays en question, y compris, le cas échéant, sous forme de titres de dette publique. En première analyse, le capital intérieur peut à son tour se décomposer en trois catégories: terres agricoles, logements, maisons et immeubles d'habitation, y compris la valeur des terrains concernés, et autres capital intérieur, catégorie qui comprend notamment les capitaux utilisés par les entreprises et les administrations, immeubles et bâtiments d'usage professionnel, y compris terrains correspondants, équipements, machines, ordinateurs, brevets, etc. Évalués comme tous les autres actifs à leur valeur de marché. Par exemple, la valeur des actions dans le cas d'une société par action. On obtient alors la décomposition suivante du capital national que nous avons utilisé pour établir les graphiques 3.1, 3.2. Capital national égale terres agricoles plus logements plus autre capital intérieur plus capital étranger net. On constate que la valeur totale des terres agricoles représentait au début du XVIIIe siècle entre 4 et 5 années de revenu national, soit près des 2/3 du capital national. 3 siècles plus tard, les terres agricoles valent moins de 10% du revenu national en France comme au Royaume-Uni et représentent moins de 2% du patrimoine total. Cette évolution spectaculaire n'est guère surprenante. L'agriculture représentait au XVIIIe siècle près des 3/4 de l'activité économique et de l'emploi, contre quelques pourcents aujourd'hui. Il est donc naturel que le poids du capital correspondant ait suivi une évolution comparable. Cet effondrement de la valeur des terres agricoles, en proportion du revenu national et du capital national, a été compensé d'une part par la montée de la valeur des logements, qui est passée d'à peine une année de revenu national au XVIIIe siècle à plus de 3 aujourd'hui, et d'autre part par la progression de la valeur des autres capitaux intérieurs qui a connu une évolution d'une ampleur comparable, légèrement moins forte, une année et demie de revenu national au XVIIIe siècle, un peu moins de 3 aujourd'hui. Cette transformation structurelle de très long terme traduit d'une part l'importance croissante de l'immobilier d'habitation, tant en surface qu'en qualité et en valeur, au cours du processus de développement économique, et d'autre part, l'accumulation également très forte depuis la révolution industrielle de bâtiments professionnels, équipements, machines, entrepôts, bureaux, outils, capitaux matériels et immatériels, utilisés par les entreprises et les administrations pour produire toutes sortes de biens et de services non agricoles. Le capital a changé de nature. Il était terrien, il est devenu immobilier, industriel et financier, mais il n'a rien perdu de son importance.